Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirika.
Au sommaire de cette édition d'information, le représentant permanent de la RDC à New York recommande au Conseil de sécurité de l'ONU d'exiger un retrait sans condition des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le professeur Georges Nzongola Ntaladja a fait cette recommandation aujourd'hui à la réunion du Conseil de sécurité consacrée exclusivement à la situation qui prévaut en l'est de la RDC. Baisse du prix du carburant à Bukavu au sud Kivu entre 2500 et 3000 francs congolais d'une station service à une autre. Bien que flottante, cette baisse du carburant réjouit les transporteurs qui achetaient un litre d'essence entre 3500 et 3800 francs congolais. Notre invité, c'est le conseil médical du ministre de la Santé publique. Dan Bomboko parle de la campagne d'ophtalmologie gratuite qui se tient jusqu'à la fin de ce mois à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Madame, Messieurs, bonsoir. Le représentant permanent de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU a fustigé l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert du M23 depuis plus de 4 mois maintenant. Le professeur Georges Ntaladja Nzongola l'a dit ce mercredi à la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Il a aussi rejeté les allégations du Rwanda qui accuse la RDC de collaborer avec les FDLR. Il a recommandé au Conseil de sécurité d'exiger un retrait sans condition des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru et de condamner fermement le Rwanda par une résolution. Il a ajouté que le Conseil de sécurité puisse s'assurer que chaque pays des Grands Lacs règle ses différends avec ses propres rebelles. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rungmouchige.
1. Le respect de l'intégrité et de l'intangibilité de frontières de la RDC. 2. Que le Conseil puisse exiger un retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 de la cité de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. 3. Que le Conseil de sécurité condamne fermement par voie de résolution la République du Rwanda pour son soutien au groupe armé M23. J'ai entendu presque tout le monde qui apparaît ici à déplorer cette occupation du Congo, mais ce n'est pas en déplorant seulement qu'on va changer la situation. Il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que le Rwanda sache que la communauté internationale est sérieuse sur cette affaire. 4. Que le Conseil de sécurité impose des sanctions appropriées et plus sévères aux acteurs du M23 et au Rwanda qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans les Grands Lacs à travers cet activisme. 5. L'appui au processus de Nairobi. 6. Exiger de tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour rejoindre le PDDRCS et fournir un soutien plus accru au programme de PDDRCS.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 ont baissé d'intensité cet après-midi dans le territoire de Rutshuru. Des sources concordantes affirment que quelques tirs sporadiques étaient encore entendus sur l'axe Kabindi-Chengerero dans le groupement de Djumba vers Mousezero dans le groupement de Busanza et vers Ntamugenga dans le groupement de Bweza. La société civile déplore la mort des 2 personnes et au moins 2 enfants grièvement blessés dans la zone de Rangira. Nord Kivu, encore, la société civile du territoire de Nyiragongo dit soutenir les FARDC qui sont engagés au front contre les rebelles du M23. Le président de cette structure citoyenne encourage par ailleurs les autorités du pays à rétablir la paix et la sécurité dans le territoire de Rutshuru. Mambo Kawaya appelle les FARDC à faire pression jusqu'à la reconquête totale des zones occupées par l'ennemi afin de faciliter un retour apaisé des milliers de déplacés de Rutshuru qui se trouvent en ce moment dans les territoires de Nyiragongo. Ces propos ont été recueillis par Bernardine Diambou.
Cette structure citoyenne appelle également la population à une vigilance tous azimuts pendant cette période où l'ennemi en position de faiblesse face à la puissance du feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, sur différentes lignes de front en territoire de Rutshuru, cherchent à s'infiltrer à partir du secteur Mikeno pour déstabiliser le territoire de Nyiragongo via le groupement Kibumba à quelques kilomètres de la ville de Goma. La société civile coordination territoriale de Nyiragongo appelle les autorités militaires de renforcer la surveillance le long de la frontière congolo-rwandaise en y déployant des éléments de forces de défense et de sécurité pour bien couvrir cette zone souvent victime des actes de provocation de la part du pays voisin, mettre fin au trafic commercial frauduleux et les mouvements clandestins de certains Rwandais facilités par certains agents des services de sécurité commis à la frontière pour fouler le sol congolais à partir des bornes 11, 12, 13, 15, etc.
Une autre nouvelle qui vient de nous parvenir à Butembo, au Nord Kivu, les activités économiques ont été paralysées tout l'après-midi de ce mercredi au marché Biassa situé au nord de la ville. À la base, l'arrivée des FRDC dans cet endroit public. Cette situation a créé une panique au niveau des vendeurs et de leurs clients qui ont vidé ce marché. Ils ont assimilé ce mouvement des troupes de FRDC comme une nouvelle incursion des assaillants. Nos sources renseignent qu'un jeune d'une vingtaine d'années révolu a été touché par balle et mort sur les champs au moment où les forces de sécurité crépitaient les balles dans une direction communément appelée Stade Maurice à Fourou. En dépit de ce mouvement de foule, un groupe de jeunes en colère acheminait la victime à la morgue de l'hôpital de Matanda. Pour autant, des coups de feu continuaient d'être entendus vers le centre-ville, créant ainsi une psychose au sein de la population. Nos efforts pour avoir la réaction des autorités militaires et policières n'ont pas abouti. Nous y reviendrons. Arrivé hier à Uvira, au sud Kivu, d'une mission de reconnaissance de la cellule opérationnelle d'un groupe de contact du cadre d'Addis Abeba. Cette mission comprend les délégués de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de la RDC. C'est pour des contacts et la coordination pour l'usage des moyens non militaires afin de convaincre les groupes armés étrangers à désarmer et à être rapatriés. Après l'étape de la ville de Bukavu, cette délégation a rencontré le maire d'Uvira et les responsables de la MONUSCO. À Uvira, la correspondance de Fiston Goma.
L'équipe a rencontré les autorités locales pour présenter leur mandat et partager leur stratégie d'engagement envers les groupes armés étrangers. D'après le coordonnateur de cette cellule, Elie Dieng, cette mission permettra à l'équipe de recueillir les avis des différentes parties prenantes ici dans la région et solliciter l'appui des leaders locaux. L'équipe a échangé avec la MONUSCO autour de cette question épineuse des groupes armés étrangers, parmi lesquels des rebelles burundais des rois de Tabara, des FNL d'Aloïse Nzabampema, ainsi que des combattants rwandais du CNRD, dont plus de 2000 dépendants signalés à Kilembwe dans les territoires de Fizi souhaitent leur rapatriement volontaire au Rwanda. Les membres de l'équipe ont exprimé le vœu de connaître les raisons qui sous-tendent les intentions de retour de tous ces groupes. C'est pour éviter que des gens qui ont commis des violations des droits de l'homme dans leur pays ne profitent du processus DDRRR pour échapper à la justice selon l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. La question des alliances entre ces groupes étrangers et les groupes locaux a été évoquée. Cette mission de reconnaissance est aussi un message à l'endroit de tous ces groupes armés, selon lesquels il y a pour eux une solution non contraignante et de manière volontaire. Cette mission de reconnaissance arrive au moment où la force régionale se prépare à lancer des opérations militaires à l'est du pays. Après le sud Kivu, l'équipe se rendra dans le nord Kivu et l'Ituri pour la même mission de reconnaissance. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la radio Kapi.
Partons maintenant pour l'Ituri où près de 18 000 déplacés reçoivent depuis ce mercredi à Bouba dans les territoires de Djougou de l'assistance en vivres, un don du programme alimentaire mondial PAM. Il s'agit des personnes qui ont fui récemment leur village pour se mettre à l'abri des exactions commises par les groupes armés locaux. Les bénéficiaires ont salué cette action, eux qui avaient de la peine à nourrir leur famille à cause de la présence des hommes armés qui ont envahi leur champ. À Bounia, le compte-rendu de Jean-Claude Lokidile.
Selon le chargé de communication de l'ONG AGDEC, Association des jeunes pour le développement communautaire qui exécute ce projet avec la Caritas Développement, une organisation internationale catholique, au total 6604 ménages estimés à près de 18 000 personnes reçoivent cette assistance. Ceci est composé de farine de maïs, de petits pois, de haricots ainsi que de l'huile végétale. Une aide qui intervient après plus d'une année de misère dans laquelle ces personnes étaient plongées. Selon cette source, c'est la toute première fois que ces déplacés bénéficient d'une telle assistance. forces depuis leur arrivée dans les groupements Dina et Ndjoukba où elles ont trouvé refuge. Elles ont été contraintes de quitter leur village, entre autres Longé, Vida, Ngakba, Tosakale ou encore Dekbaba, où opèrent des hommes armés. Pour cette opération, le PAM a livré près de 300 tonnes de vivres, précise le chargé de communication de l'ONG AGDEC. Notons que cette distribution va durer 7 jours. Bounia, Jean-Claude Loki. Dile Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite au Kwilu de la traque menée par les FARDC contre des assaillants dans le territoire de Bagata. À ce jour, 17 assaillants présumés auteurs d'atrocités ont été arrêtés avec plusieurs armes blanches et à feu au village de Kimpana. Cette opération militaire est rendue possible grâce au renfort de la 11e région militaire et du gouvernement provincial. Ces assaillants présumés ont été présentés hier à l'état-major des FARDC à Bandundouville par le chargé de renseignement au bataillon infanterie de Bandundu. Le capitaine Jean de la Croix à Makola Mbouy est au micro d'Irène Boma.
Ce sont des assaillants qui font quand même des désordres dans la province, vous le connaissez. Des malfaiteurs, ils ont brûlé des maisons, ils ont incendié même des maisons détruites, ils ont tué des militaires, même entre eux-mêmes, ils sont en train d'être entretués. Ils peuvent nous dire ça. Il y avait des corps presque partout dans des brousses. Là, nous ne cessons jamais de faire aussi des patrouilles comme il se doit. Ils sont arrêtés au village de Kipana, Kipana village et Kipana carrière. À totalité, ils sont au nombre de 17. Vous avez quand même l'image devant vous. Ils sont arrêtés avec des machettes, vous voyez. Nous avons 20 machettes là devant vous. Nous avons 8 flèches et puis 6 calibres 12. C'est ça ce que vous voyez devant vous. C'est ça notre mission. Nous continuons toujours à lutter pour ça. Que la paix soit rétablie dans la province de Bandundu, Bandundu particulier et le Congo en général. À Bagata, bon, on a envoyé presque deux éléments. Hein. La situation devient quand même trop calme. Mais il y a des insurgés qui sont presque par-ci, par-là. Ils sont éparpillés dans des villages. Ils n'ont pas vraiment la force. Ce qui nous suffit vraiment de renforcer la force, d'être vraiment en renfort, afin que ça termine ce genre de choses.
J'ajoute qu'au Maïndombe, au moins 80 présumés auteurs de tueries et incendies de maisons ont également été arrêtés au village de Massiambio dans les territoires de Kwamout. Dans l'actualité, il y a également le Kasaï oriental où 600 ménages du site agricole de Nkwadi reçoivent de fertilisants organiques pour 500 hectares labourés gratuitement en faveur de ces familles depuis le mois de septembre dernier. Cette action rentre dans le cadre de la transformation agricole, une initiative du président Félix Tshisekedi, initiative mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Les bénéficiaires se disent satisfaits de ces geste qui va régler le problème de famine dans cette contrée ainsi que celui de la hausse du prix du maïs. En Bougimaï, Esther Ndalafina.
C'est depuis le début de la saison culturelle A que l'Institut agricole du leadership africain, l'Institut international d'agriculture tropicale et l'entreprise bio-agro-business assurent l'assistance technique de 600 ménages du site d'Nkwadi. Après le labour gratuit de 500 hectares, suivi de la distribution des semences de maïs, les paysans bénéficient depuis le week-end dernier des engrais chimiques pour améliorer la quantité et la qualité de la production agricole. Jean-Paul Kalonji, un des paysans exprime sa gratitude.
Auparavant, on avait beaucoup souffert pour travailler à la mer. On ne produisait pas beaucoup avec leur accompagnement. Nous allons produire beaucoup de choses.
Docteur Sam Ajala, responsable de la composante maïs de ATIA, et Docteur Paul Dantsop, chef de la station ITIA Kasaï Oriental, ont expliqué aux paysans les techniques d'application de l'engrais.
On les a expliqués. On a appliqué nous-mêmes et on les a demandé d'appliquer et on est passé à la session questions-réponses. Nous pensons que s'il continue comme ça, on aura une très bonne productivité, on aura une bonne récolte.
Signalons que l'objectif visé dans ce programme est de quitter de l'agriculture des substances en celle commerciale où les paysans doivent devenir des grands producteurs. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Partons maintenant pour le Sud Kivu où le prix du carburant est revu à la baisse. Dans la ville de Bukavu, il flotte entre 2500 et 3000 francs congolais d'une station-service à une autre. Bien que flottante, cette baisse réjouit les transporteurs qui achetaient auparavant un litre d'essence entre 3500 et 3800 francs congolais. C'est ce que nous explique à Bukavu Jean Kassami.
Les stations-service dans la ville de Bukavu ont revu les prix du carburant à la baisse, mais à des taux différents. Les opérateurs économiques du secteur pétrolier confirment que la baisse du prix observée à Bukavu est une conséquence du réajustement à partir de Kigali, d'où les importateurs s'approvisionnent. La population s'est dit satisfaite, mais elle souhaite que cette baisse puisse impacter sur les transports en commun. Les chauffeurs des taxis bus attendent la décision de l'autorité pour s'y conformer.
Chaque station encore ce prix qu'il fait. Jusqu'à maintenant, on achète le carburant à un prix tantôt à 3000, tantôt à 2500, tantôt à 2600, tantôt à 3100 francs. Jusqu'à maintenant, on n'a pas le prix fixe. Maintenant, ce sont les autorités qui peuvent dire aux pétroliers de fixer le prix normal à chaque station.
La hausse des prix du carburant avait ramené une course en taxi de 500 à 1000 francs congolais sur le boulevard Patrice Emery Lumumba. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
L'actualité de l'étranger maintenant. À deux mois d'une conférence décisive de l'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, aujourd'hui divisé, le président Cyril Ramaphosa paraît affaibli actuellement alors qu'il veut être investi pour briguer un deuxième mandat lors des élections à organiser en 2024. Et puis en visite officielle en Somalie et au Kenya, le haut commissaire des ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, a échangé hier avec le président William Ruto des besoins d'évaluation des camps des réfugiés dans ce pays.
L'invité.
Notre invité, c'est le conseil médical du ministre de la Santé publique. Dan Bomboko parle de la campagne d'ophtalmologie gratuite qui se tient jusqu'à la fin de ce mois à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Il s'entretient avec Babel Mpongo Massimango et Priscille Kabuya.
Bonjour docteur Bomboko.
Bonjour madame.
Il y a une campagne de traitement gratuit des malades souffrant de la cataracte qui a commencé ce lundi à l'hôpital général de Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer et comment?
Nous avions commencé depuis déjà deux semaines à enregistrer les malades via différents canaux que nous avons utilisés, les relais communautaires et aussi les bénévoles. Nous avons eu enregistré plus de 5000 cas déjà et nous commençons les consultations et les opérations proprement dites. Toutes les personnes qui ont été au préalable enregistrées vont se rendre dès à présent à l'hôpital et nous avons installé deux cabinets de consultation à l'hôpital de Mamaïmo. Un cabinet sera assuré par des médecins congolais qui vont continuer à faire les cris des malades qui sont venus pour se faire opérer. Le deuxième cabinet de consultation, c'est un cabinet qui sera assuré par les médecins soudanais qui nous accompagnent dans ce projet. Et c'est ce cabinet qui va en réalité définir les patients qui vont être envoyés au bloc opératoire pour les opérations et les patients qui vont être acheminés vers les services de prise en charge médicale pour l'obtention des lunettes et des médicaments. Et les personnes qui sont retenues pour les interventions vont recevoir une carte de rendez-vous et ils vont revenir le lendemain pour être pris en charge au niveau du bloc. Voilà un peu le circuit qui va se passer au niveau de l'hôpital Mamaïmo jusqu'à dimanche. Il faut dire que pour les cas d'intervention, c'est J+1. Donc c'est le jour où on est consulté, le lendemain on vient pour se faire opérer. Ceux qui seront consultés mardi vont se faire opérer mercredi, ainsi de suite jusqu'à dimanche.
Ok, et tout ça est gratuit?
Oui, tout ça est totalement gratuit, pris en charge par le Trésor public, le gouvernement du Congo. En collaboration, bien sûr, avec nos ONG partenaires.
Et les médecins, on peut faire confiance, hein, ce sont des spécialistes qui les font parce qu'en matière de yeux...
Ce sont des experts, hein, en soins ophtalmologiques. Les dossiers de chaque médecin soudanais a été envoyé près de l'ordre des médecins. Les dossiers de chaque médecin a été examiné scrupuleusement et on les a octroyés des permis temporaires d'exercer la médecine en RDC.
Et cette opération, en fait, ça concerne seulement Kinshasa ou elle va aussi s'étendre sur d'autres parties de la RDC?
Cette édition, on le fait à Kinshasa, mais au mois de février, on va le faire au Nord Kivu, au Katanga et à l'Équateur.
Autre précision, docteur, si par exemple j'entends parler de cette opération aujourd'hui et que j'ai des problèmes d'yeux, je peux y aller ou bien c'est déjà trop tard?
Non, les personnes peuvent toujours y aller puisque nous fonctionnons toujours sous les listes et tous les cas ne sont pas opérables. Donc, c'est-à-dire que même si nous avons, comme j'ai dit, enregistré 5000 personnes, mais nous visons 500 opérations, donc à peu près 10% des personnes enregistrées seront opérées. Donc, les personnes peuvent continuer à aller et se faire enregistrer et si leur cas et sélectionnés, ils vont se faire opérer. Sinon, ils vont être conduits dans nos cabinets pour juste la prise en charge médicale, donc l'octroi des médicaments et des lunettes.
Et docteur, dans ce lundi et 6 jours d'ouverture, au niveau du pavillon 26,
hein, oui, pavillon,
de l'hôpital
oui,
général, exactement. Il y a foule. Comment vous voulez faire pour gérer toutes ces personnes-là? Parce qu'il y a et des adultes et des enfants, vous voyez avec tout ce qu'il y a comme passé de siège, menace de pluie, etc., etc. Donc,
effectivement, on s'y attendait. C'est toujours comme ça le premier jour. Il y a aussi des démarrages. Mais nous avons dessiné les circuits depuis la semaine passée. C'est vrai qu'avec la pluie, nous avons peut-être pas pu installer les tentes comme il s'est levé, mais nous avions normalement prévu installer les tentes et mettre tout le monde en rangée dans les tentes et puis recevoir une personne après l'autre selon les listes. Mais avec la pluie, les gens peut-être se sont réfugiés à l'intérieur et voilà, ça crée cet engouement. Mais nous allons améliorer la situation là-bas sur place.
Vous avez un message à adresser à tous ces Kinois, hein, à toute cette population qui vous suit.
Oui, le message, hein, ce serait premièrement de demander l'apaisement, hein, auprès de nos populations, parce que parfois il y a des insatisfactions, des personnes qui ne sont pas prises en charge à temps et qui ont attendu pendant longtemps. C'est vrai que la prévalence de la maladie est importante. Nous faisons un effort pour essayer de juguler cette problématique et de prendre en charge tout le monde. Donc c'est vraiment le message que j'ai adressé à nos compatriotes, de nous faire confiance et nous allons prendre en charge tout le monde.
Merci docteur.
C'était l'invité de Radio Okapi, le conseiller médical du ministre de la Santé publique, docteur Dan Bomboko, était interviewé par Babel Mpongo Massimango et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h21. Merci infiniment à Richard Junior Kamunga qui a coordonné ce journal sous la supervision éditoriale d'Alain Rungmushish.